Je vais passer maintenant la parole à John Scheid. Assez rapidement, dans la mesure où présenter John Scheid au Collège de France revient un peu à introduire Jupiter au Capitole ou Louis XIV à Versailles. En clair, c'est un exercice qui me semble assez inutile, voire inapproprié. Et donc, je tiens avant tout à le remercier d'avoir accepté mon invitation. Et je lui passe immédiatement la parole en me réjouissant d'avance des discussions comparatistes que nous pourrons mener à la suite de son exposé. Merci, John. C'est à toi.
Je récuse tout de suite ces allusions parce que je n'ai rien de divin. Et surtout, mes origines ne sont pas royales, sont grand-ducales, très modestement. Très bien. Vous verrez dans cet exposé des points de contact évidents et très intéressants, et on ne sait pas quoi en faire, en principe, à cause de la chronologie, parce que chez moi, c'est des choses déjà relativement anciennes qui sont toutes constituées au début de notre ère. Le genius humain, ou la masculin, romain, hein, ou la figure de la Juno pour les dames, qui s'adjoint apparemment au début de notre ère au genius, constitue un sujet qui est doublement intéressant. Il représente d'un côté une catégorie de divinités particulières dans le système polythéiste, en ce qu'elles sont soumises à la naissance et à la mort, et apporte d'autre part un témoignage sur les spéculations théologiques individuelles. Et ça apparaît notamment, comme dans l'exposé précédent, dans le rapport avec la mort d'un individu. Qu'est-ce qui se passe pour son génie, etc. Je n'entre pas du tout dans le détail vieilli sur le sens premier de genius au XIXe siècle et jusque chez certains retardataires du XXe siècle, dans les vieux dictionnaires, dans le Pauli Wisowa, la Real Encyclopédie, sous la plume de Walter F. Otto, qui est souvent plus inspiré, où chez nous, Jean Baillet, Henri Le Boniek, on trouve l'idée que le genius, c'est, on cherche dans les origines de l'histoire romaine, l'origine du genius, et on y voit, dans son sens originel, le pouvoir créateur masculin, parce que genius est lié à gignere, ça on le voit très bien, même un élève le voit, et que c'est derrière, à l'arrière-plan, on voit le thème du culte de la fertilité. À une époque plus récente, par exemple dans l'Oxford Classical Dictionary et surtout chez Georges Dumézil, on voit dès les années 60 la réfutation de cette idée. Il est même revenu contre cette idée en 83, c'est surtout contre une idée qu'avait repris encore une fois Le Boniek, et sa position fut suivie ensuite par Schilling, plus récemment par Bertrand Goffaut et Manuel Rousseau, et ainsi de suite. Dumézil se fonde de manière typique sur la pratique religieuse et non sur le fantasme primitiviste, et considère que d'après tous les témoignages antiques, le genius est à la personnalité d'un individu telle qu'elle s'est constituée à sa naissance. Les textes de toute nature ne contiennent jamais le renvoi à un élément de sexualité créatrice, si vous voulez, et le culte du génie, de même que ses représentations figurées, ne connaissent rien de cette référence, qui est de toute évidence moderne. Je ne reprends pas en détail la démonstration que je trouve juste. Vous verrez au passage des documents qui vous prouvent que, de toute évidence, c'était un fantasme qu'il n'est peut-être plus besoin de combattre. J'ajoute que ce qu'on vénère lors d'une naissance d'un enfant, par exemple, c'est le génie de ce qui naît, de ce qui est né, et non le genius de son géniteur, ce qui pose déjà un premier problème si l'on envisage la pratique. On se doute que les tenants du primitivisme auraient répondu qu'il s'agit d'une évolution, là, mais même alors, je ne comprends pas comment on est passé de l'un à l'autre. D'autre part, il est difficile de trouver un argument dans les junons des femmes qui auraient conçu, ce serait le genius, etc., non seulement parce que cette notion de Juno, de quelqu'une, n'apparaît qu'au début de notre ère, mais aussi parce qu'au cours du premier siècle de notre ère, il existe des variations entre la Juno d'une femme, sa Concordia et même d'autres figures divines, nous le verrons. Et enfin, qu'il n'est pas exclu qu'il y ait eu des génies d'êtres féminins auparavant. Où est la puissance sexuelle mâle ? Chaque homme a donc un genius, et au moins depuis l'Empire, chaque femme une Juno, une Junon, qu'ils vénèrent et que les membres de leur famille vénèrent. Ceci vaut aussi sur le plan domestique et public pour les princes, pour les empereurs, dès le début de notre ère, et leurs épouses. Et ce que nous appelons le culte impérial en Occident est en grande partie le culte, j'exclus le divine Auguste après sa mort et tout cela, c'est en grande partie le culte du génie de l'empereur et de la Juno de son épouse. À la suite d'une loi ou d'un senatus consulte, on ne sait, de 30 avant Jésus-Christ, qui avait prescrit, c'est dans ce texte que vous pouvez le trouver, je traduis littéralement, d'offrir une libation au génie d'Octavien lors de tous les banquets publics ou privés. Et c'est cette coutume nouvelle qui se diffusera et le génie entrera, par exemple, dans les serments où on invoquait les dieux. Là, je vous donne un texte de l'époque de Caligula où vous voyez qu'on invoque d'un côté Jupiter Optimus Maximus, le noumen, la puissance divine du divin Auguste qui est mort, et puis le génie de Gaius César, c'est-à-dire de Caligula. Ces hommages pouvaient d'ailleurs s'adresser également, dans le cadre domestique, à la domus, à la famille, comme dans ce cas-là, on pouvait lui faire des vœux, ou même à la domus augusta, à la famille impériale. Tout ça est connu. Et de même que les humains, les dieux, pouvaient avoir à Rome un génie, un genius, où l'on peut d'ailleurs constater que les déesses pouvaient avoir un génie. Je vous montre une inscription d'Espagne qui est bien amusante, une longue liste, où vous avez le genius Jovis, le génie de Jupiter, le genius Martis, ce ne sont pas du tout des exceptions, le genius de Victoria à la fin, et genius meus, mon genius, dit celui qui fait la dédicace. Et vous avez à Rome même, vous avez cette inscription qui a été trouvée au Janicule dans un sanctuaire à Jupiter héliopolitain, c'est le fameux sanctuaire syrien du Janicule, mais qui était installé dans le bois sacré de divinités appelées les Furinae ou Furina, les deux formes existent au singulier aussi, donc qui étaient, semble-t-il, les déesses des canaux souterrains de drainage, très important à Rome. Et vous voyez qu'au moment où on honore le Jupiter héliopolitain, qui est un hôte en quelque sorte dans ce sanctuaire, on fait aussi une dédicace au génie des Furinae, Furinae, dans la forme qui est employée. Les groupes sociaux, comme les collèges d'artisans ou de tout ce qu'on veut, de gens issus d'une certaine ville, ou les unités militaires, légions, centuries, décuries, toutes les unités militaires ont également leur génie, de même que les institutions, à commencer par le peuple romain, par le Sénat, une province, la ville de Rome ou une cité de l'Empire. Les lieux ou les régions aussi avaient leur génie. Bref, tout lieu, tout groupe, tout individu humain ou mortel, individuel ou collectif, possède un génie. Deux mots encore sur la représentation du génie et la traduction grecque de ces notions. Là, ce sont déjà des choses qu'on a vues en partie. Le génie à Rome est toujours présenté de cette façon-là. Un togatus, la tête voilée, tenant d'une main une corne d'abondance, de l'autre une pater. Ça ressemble à certaines des images qu'on a vues. Sur les autels, tout ça vient de Pompéi, ces peintures. Donc, 1er siècle de notre ère, et à Pompéi, sur les autels, on distingue souvent sous l'autel du génie et des lares, qui sont les deux divinités du terroir où est l'activité de la famille, vous avez le génie au milieu, vous avez les personnages humains en plus petit, et puis les dieux lares, et en dessous, vous avez deux serpents qui viennent, quelque sorte, manger sur l'autel. Et l'un des deux a une crête, on le voit à peu près ici, donc c'est le mâle et la femelle. Et d'ailleurs, ce genre de... Donc, le genius et Juno, si vous voulez. Et on trouve ça même dans la dans la littérature, où Perse, par exemple, demande qu'on peigne deux serpents, etc. Il dit ce lieu est sacré. Et Saint Sorinus, qui a fait un petit traité sur le jour anniversaire, où il parle beaucoup du génie, il dit « Certains ont pensé qu'il fallait, dans les maisons où vit un couple marié, honorer les deux génies. » Il dit d'ailleurs « les deux génies hein, », encore sous l'Empire. La représentation figurée de la Juno, on représente dans les maisons, en général, le maître de maison. Mais dans les lieux plus officiels, on représente la Junon de l'impératrice. Et vous voyez que c'est la même chose, elle est en stola de matrone. Elle a dans une main la corne d'abondance, la stola au-dessus de la tête, et l'autre main qui est malheureusement cassée, mais il y a d'autres exemples qui sont plus complets, elle tient une patère pour recevoir l'offrande. Et en général, dans ce cas-là, quand c'est l'empereur, il a la figure du prince, de l'empereur ou de l'impératrice. Notons que dans tout ça, hein, vous avez vu, il n'y a pas la moindre référence à une puissance sexuelle ou à l'accouchement que la Junon d'une femme est censée exprimer, mais uniquement une allusion à la bienveillance de cette divinité et à l'offrande qu'elle va recevoir. En grec, je n'ai pas besoin, je peux passer rapidement, je vous montre un exemple d'époque impériale, à la Tuchè oikou poplion, que regretté Moretti avec lequel, pour une fois, je ne suis pas d'accord, pense que c'est la fortune des Publii, mais je crois que c'est la traduction typique du genius des Publii, de la famille des Publii. Et puis, le daimon Agathos, je passe, vous en avez eu assez. Mais les Romains utilisent souvent ce terme pour exprimer tuche tinos, Agathon Daimos Tinos, et il y a peut-être un autre rapport dont on peut parler, parce que Manes signifie les bons à Rome. Agathos, on voit qu'il y a des contacts. Bon, mais tout cela, on ne va pas s'attarder. On ne va pas non plus perdre notre temps à égrener tous les génies possibles. J'ai donné un exemple de tout ce qu'on peut avoir, et vous en verrez à l'occasion, mais le plus important est de nous intéresser à l'analyse de ces divinités, d'une part, qui ont ce côté étonnant d'être éphémères, et de l'autre côté, aux spéculations des individus à leur sujet, et notamment au moment de la mort. Et même encore, pour les dames, pour les hommes, c'est toujours genius, mais pour les dames, on change au début de l'Empire, en tout cas, et ça continue pendant tout le Haut Empire. On change de spéculation ou de traduction, si vous voulez, de cette vertu que serait le genius. Soulignons d'abord le caractère personnel, donc du particulier du genius ou de la Juno. Ce sont des divinités immortelles, encore Saint Sorinus. Hein. Vous pouvez lire, vous voyez qu'il ne parle pas de celui qui engendre, mais de celui qui fait naître. Le genius est ce qui naît avec l'individu et qui meurt avec l'individu. C'est pas du tout ce qu'on dit, n'est-ce pas? Donc ce sont des divinités immortelles qui naissent ou meurent avec les êtres ou les choses auxquelles elles sont attachées. Évidemment, le génie de la ville de Rome a une longévité supérieure à celle d'un simple citoyen. La même qualité, c'est une affaire, une qualité connue, existe aussi. Je prends d'abord deux textes grecs que vous connaissez certainement, l'hymne homérique à Aphrodite, où vous voyez que donc les nymphes, etc., ces déesses, on ne les compte ni parmi les êtres mortels, ni parmi les immortels. Elles vivent longtemps, goûtent à l'aliment divin et dansent gracieusement en chœur avec les immortels. Un autre, c'est les nymphes dans les arbres, n'est-ce pas? Et quand arrive l'heure fatale de la mort, on les voit d'abord sécher sur le sol, ces beaux arbres, les cols dépéris, etc. En même temps, l'âme des nymphes abandonne la lumière du soleil. Et on a un célèbre passage dans l'Énéide où un personnage dit qu'il essaye, c'est au moment où il trouve un des compagnons d'aîné mort sans tombe, il tire sur une tige, il arrache du bois et de l'écorce du second arbuste s'écoule aussi, parce qu'il voit un liquide noirâtre, il tire, il y a encore du sang noirâtre qui s'écoule, remuant mille pensées, je vénérais les nymphes champêtres. Et notre collègue Servius commente cela, remuant mille pensées. Il ne dit pas lesquelles, dit-il. Il, c'est Virgile. Mais de la suite, nous comprenons. Je me demandais, dit-il, s'il n'y avait pas par hasard une guerre qui menaçait parce que j'ai vu du sang, ou si j'avais volé un bois sacré de nymphes, et si le sang n'était pas par hasard celui des nymphes. Les hamadryades naissent et meurent avec les arbres. C'est pour cela qu'il coule la plupart du temps du sang d'un arbre coupé. Car Ovide dit que lorsqu'Hérésicton coupait l'arbre, d'abord du sang se répandit, ensuite un hurlement suivi. Donc vous voyez que ce sont ce genre de divinités que nous retrouvons avec les génies, disons. Et nous le trouvons à Rome aussi, avec les divinités que Hermann Husen a appelées les Sondergötter, les dieux spécialisés, ou les dieux de l'instant. Et les Arval, mes compagnons, les appellent par exemple divi famuli, les divins serviteurs. C'est, comme dit Augustin, des dieux plébéiens, si vous voulez, des petits esclaves qui aident les dieux à faire leur office et à gérer leur sanctuaire. Et vous avez aussi, alors c'est ma préférée, enfin d'une grande liste de dieux, vous avez Madame Adolenda Comolenda Deferunda. Un figuier avait poussé sur le pronaos du temple, il fallait le descendre, le mettre en pièces et le brûler, parce que propriété divine, on ne peut pas l'exporter du sanctuaire et il faut le détruire parce que dans un bois sacré, comme dans les troupeaux sacrés, il ne doit pas avoir un élément mort. Il y a un article de Vidal Naquet sur les troupeaux sacrés, on a exactement la même façon de raisonner sur ce qu'est la propriété des dieux. Et donc, madame, patronne ces trois activités mises en ordre alphabétique, et elle existe uniquement pour ce travail, et elle s'évanouit après. Mais elle a un hôtel temporaire, on appelle ça même en latin temporaire, le temps du sacrifice en question. C'est une des premières qualités du génie, c'est assez intéressant, on ne pense jamais à ce genre de caractéristiques qui, quand même, sont assez intéressantes, de divinités qui sont pleinement humaines, beaucoup plus divines que des empereurs divinisés, parce que cette liste où ces deux divinités apparaissent se termine, c'est un grand sacrifice à 15 divinités au bois sacré, parce qu'on a dû faire des travaux. Et il y a une chapelle des empereurs divinisés, mais qui viennent après. En deuxième lieu, ils ne reçoivent pas deux victimes, mais une victime. Ils viennent même après la petite madame devant brûler, débiter, faire descendre. Et ils sont inférieurs à lui. Et ils sont même inférieurs au genius de l'empereur régnant. Donc quand nous parlons de la divinisation des empereurs, nous devrions un peu lire les textes. Il en sort autre chose que ce que certains écrivent. Bon, la deuxième observation que nous pouvons faire et qui détruira davantage encore l'opinion combattue par Dumézil concerne la possibilité de substituer une autre divinité au genius ou à la Juno, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est ? Prenons un sacrifice pour voir comment ça se développe. Un sacrifice célébré le 6 novembre 58, à l'occasion de l'anniversaire d'Agrippine, la mère de Néron, par les frères Arval. Je ne peux pas les laisser. Les prêtres sacrifiaient à la triade capitoline à cette occasion et à Salus Publica, donc aux divinités capitolines de l'État, avec leur adjonction traditionnelle de salut public. Puis, vous voyez, je l'ai souligné, à la Concordia Ipsius, à sa concorde, terme assez mystérieux, mais puisqu'il s'agit de l'anniversaire d'Agrippine, qui est la seule personne qui est mentionnée, et que ce n'est certainement pas la concorde du président des Arval qui est nommé en tête et qui officie, c'est la concorde d'Agrippine. Mais avouez que la notion est étrange. Et le 15 décembre, il y a un autre sacrifice en raison du jour anniversaire de Néron lui-même, triade capitoline, les dieux de l'État, plus Salus Publica, et Concordia Honoris Agrippinae Augustae, Genio ipsius taurum. Ça, c'est au génie de Néron, un taureau, et à Agrippine, enfin, à la concorde de l'honneur d'Agrippine Auguste. Je dois vous dire que nous n'avons pas compris, ni les premiers qui ont publié ce texte, ni moi-même. Wilhelm Hensen avait conclu que l'honneur d'Agrippine désignait vraisemblablement Néron. Agrippine aurait dans ce cas non pas un génie, comme Néron par exemple, mais une concorde, comme nous les disons aussi au 6 novembre, mais en fait, cette concorde exprimerait sa qualité de mère de Néron et de l'empereur. Donc. Bref, c'est assez compliqué, mais il semblerait que c'est à peu près l'époque où, en tout cas dans le culte public pour l'empereur, ce genre de jeu cesse, puisqu'en 63, il est fait mention d'un sacrifice d'État, où il y a de nouveau toute une liste, et vous voyez que d'abord, son génie reçoit un taureau. Ne vous inquiétez pas des lacunes, elles sont certaines, tellement ces textes sont répétitifs. Puis il y a la Juno de Poppaea Augusta, c'est la Junon de Poppée, et la Junon de Claudia Augusta, c'est la petite gamine dont Poppée venait d'accoucher. Donc désormais, on ne trouvera plus que des Junons d'impératrice. Ça deviendra la norme. Ces substituts à la Junon qui sont intéressants, bon là c'est le grand culte public, mais ils ne sont pas du tout utilisés, on les trouve aussi pendant tout l'Empire dans le culte privé. L'une des mieux attestées, spectaculaire, est celle d'une tombe de la Via Appia appartenant à une certaine Claudia Semnae, très douce épouse de Marcus Ulpius Crotonensis, affranchie impériale de Trajan. Donc vous avez la dame et vous avez Monsieur Crotonensis là. Et on ne peut pas nier qu'il soit de l'époque de Trajan, vu la mode de la coiffure. La tombe que Ulpius a créée pour son épouse, défunte, est située, vous pouvez le lire, dans un jardin, une sorte de petit bois sacré qui comprend des triclias, c'est-à-dire des triclinias à ciel ouvert, avec des tables de banquet, une petite vigne, et des édicules abritant, c'est ça qui nous intéresse, les statues de Madame Claudia Semnae sous l'aspect de divinité, in formam deorum, je l'ai souligné, le tout entouré d'un mur, dans l'espace entouré d'un mur. Une autre dédicace trouvée dans le même ensemble s'adresse à plusieurs déesses, Fortune, Spes, donc Espérance, et Vénus, ainsi qu'à Mémoire de Claudia. Il faut mettre des majuscules à sa génie, Junon, et à Mémoire. Ce n'est pas la mémoire de Claudia, ce sont des noms propres de divinité. Et on spécule là, notre Ulpius, il spécule quand il fait cela. Nous n'avons pas toutes ces statues. Mais nous en avons une, en tout cas. Nous avons Claudia étendue sur un lit, un lit de table, et elle est représentée. Elle est représentée quand vous la regardez. Elle a un diadème. Ce n'est pas une simple mortelle. Elle est représentée en Vénus, comme sur c'est Vrede, évidemment, qui a fait un livre connu sur toute cette tradition de la représentation in formam deorum, et il a évidemment, il s'est jeté sur le mausolée de Claudia Semnae, comme vous pouvez imaginer. Et là, vous voyez Claudia Semnae, là, je ne dis pas c'est Claudia Semnae, je dis c'est la Vénus de Claudia Semnae. Vous avez deux amours à côté, vous avez que de façon coquine, elle dénude son épaule, même si c'est une Vénus un peu alourdie, disons, par l'âge. Ce sont des portraits réalistes. Hein. C'est ça qui est assez amusant dans cette histoire. S'agit-il d'une divinisation, comme on le dit souvent? Est-ce une nouvelle Vénus? Il existe effectivement des divinisations privées. Celles que Cicéron voulait, par exemple, entreprendre pour sa fille Tullia est connu, mais nous ignorons ce qu'il allait faire exactement, puisqu'il n'a pas eu le temps de faire construire un temple, un fanum, disait-il, plutôt qu'un tombeau, et nous ne savons pas quel rite il allait faire célébrer. Oui, là, vous avez de la bibliographie encore sur ces pratiques. Et pour Cicéron, vous n'avez qu'à regarder dans les lettres à Atticus, au livre 12, il y a un commentaire qui dit à peu près tout ce qu'on sait sur l'affaire. Il existe d'autres documents que j'évoquerai plus loin. Ici, toutefois, je ne pense pas qu'on puisse parler de divinisation. Il s'agit d'autre chose. De la même manière que pour créer la Junon des femmes, on s'est inspiré de la déesse matronale Junon et de sa fonction, qui est de mettre au monde des enfants, ou pour Agrippine de la notion politique qu'il a liée à son fils, Claudia avait comme double incarnant sa personnalité, puisque c'est ça que fait le génie, c'est le double de la personnalité d'un humain, mais double divin. On a choisi trois déesses, et Vénus est l'une d'elles. Et le mari a même associé, et ce n'est pas isolé, une quatrième déesse à cela, c'est Mémoire de Claudia Semnée, qui est un peu son double divin, mais pour les vivants, les survivants. Vous voyez donc, Ulpius spécule autour de sa femme. Qu'est devenu son génie ou sa Juno ? Et il la remplace par des caractéristiques qui définissent sa personnalité, qui définissaient sa personnalité. Claudia n'est pas seule. Une inscription de 168 provenant des environs de Rome, de Gabii, près du raccordo annular et au nord-est, donne un témoignage très clair. On apprend que Aulus Plutius et Epaphroditus dédient un templum avec une statue en bronze de Vénus à, je l'ai souligné, Veneri Verae Felici Gabinae. On peut traduire de deux façons, à Vénus heureuse, bien heureuse, de Gabi, de Vera ou Vera. C'est ambigu. Moi, je suis pour le génitif, c'est de nouveau la même chose, c'est la Vénus de Vera, bienheureuse, de Gabi, de la cité où nous sommes. On a cherché des choses fantastiques, ça n'a aucun sens. Nous sommes comme dans un sens tout à fait semblable à celui qu'on a vu avec Claudia Semnée. À Tarragone, on a un exemple semblable, ça se diffuse dans tout le monde romain, où vous avez par exemple une Venus Latinillae, ce n'est pas un datif, c'est un génitif, donc la Vénus de Latinilla et son mari qui donne son nom. Et pour vous montrer comment on traite dans les éditions ce genre d'allusion, en supprimant des éléments du texte ou en passant par silence, disons tout de suite que, bon, je lis le texte, la phalax perque suos juravit oculos, elle a juré par ses yeux, elle a prêté serment, un faux serment évidemment, iunonem que suam perque suam venerem, nulla fides inerit. Eut-elle juré la perfide par ses yeux ou par Junon, traduit Max Ponchon, par Vénus, ses protectrices, elle ne méritera aucune confiance. Bon, lui au moins, il est sorti du bois. Il a tout traduit en transformant des adjectifs possessifs en protectrices. Ce n'est pas tout à fait le sens. Une édition allemande, très éminente, dit que simplement elle jure par ses beaux yeux et il passe sur tout le reste. Non, il faut traduire, elle a juré par ses yeux, par sa Junon et par sa Vénus. Et quand vous avez vu Semna et Latinilla, vous savez que c'est tout à fait possible. On connaît aussi à Rome deux inscriptions, dont l'une est adressée au dieu Man, ce qui vous montre qu'il y a un jeu, là, on se pose des questions. Au dieu Man, l'inscription est au Louvre, n'est-ce pas, de cette Aelia Procula, Et l'inscription s'adresse à Elia Procula, donc à Diane, et à la mémoire d'Aelia Procula. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois de plus, au milieu, vous voyez une Diane. Hein. Je vous montre l'inscription. C'est à Diane et à mémoire d'Aelia Procula. Et il y en a une autre, et là, les dieux mânes sont aussi mentionnés. Il y en a une autre qui est à Rome, où on a la même chose, n'est-ce pas, où une Aelia Tike reçoit, etc. Les dieux mânes de cette Aelia Tike reçoivent cela, et au-dessus, de nouveau, il y a une Diane. On peut penser qu'il s'agit, une fois de plus, de la même chose. Georg Vissova, en son temps, avait d'ailleurs mentionné que tutelle, protection, doit être compris de manière semblable. Par exemple, la tutelle, la candidiana, etc., c'est celle qui protège, pour protéger, candidiana. Et de la même, il y a la tutela de la famille Rupilia, où on fait aussi des cultes. Parce que pour lui, le genius était le deus in cuius tutela, locus ou persona est. C'est le lieu sous la protection duquel était un individu ou une chose. Mais pour vous montrer que, en tout cas, quand je traduis par un génitif, ces formes féminines où le datif et le féminin sont semblables, nous avons d'Osti cette urne, donc le nouveau culte funéraire, qui s'adresse « Iunoni et vericundiae ulpiae cum ses », donc à Junon et à pudeur, vericundia, encore une petite variation, « d'ulpia cum ses », parce que « cum ses », c'est un génitif. Ou alors on spécule sur des erreurs de déclinaison, et je ne veux pas admettre cela. En tout cas, vous avez vu que ce sont les, dans ces spéculations sur ce que deviennent les génies ou les junons après la mort, qu'on nomme les dieux mânes ou qu'on les remplace par ces divinités, on voit que ce sont les qualités domestiques ou sociales des dames en question qui sont, ou des jeunes filles qui sont divinisées. En revanche, le fait que deux exemples au moins de génies de femmes soient attestés, mais aussi que pour les institutions qui sont représentées par des termes féminins, il y a le génie de la centuria, il y a le génie de la legio. Pourquoi on ne met pas Iuno legionis? Mais ça montre que vraisemblablement, comme Censorinus, qui est un savant, le dit, le génie c'est le terme général. Et les Romains ont brodé sur cela. Il y a un deuxième point où on a essayé de voir des problèmes avec le sens du genius. Je veux d'abord vous montrer un exemple pour montrer que tout ça ne sont pas des inventions. Même au niveau public, collectif, les Romains avaient des problèmes avec le genius et les dieux mânes et la divinisation de Jules César ou des empereurs. Quand la loi Rufrena a divinisé César, la loi Rufrena a ordonné quand le Sénat a divinisé César, la loi Rufrena a ordonné à toutes les cités de lui créer un culte tout à fait officiel. Et un premier exemple qui est le reflet de cela, en Italie, à Ocriculi, on dit « Divo Iulio iussu populi romano statutum est lege Rufrena ». Donc, on a mis un culte, si vous voulez, avec statue et tout, au divin Jules, sur l'ordre du peuple romain, en raison de la loi Rufrena. Mais à Isernia, à la même époque, ils avaient manifestement un problème. Ils mettent tout à fait officiellement « genio divi Iuli parentis patriae », donc au génie du divin Jules, parent de la patrie, que le Sénat et le peuple romain ont porté au nombre des dieux. Eux, ils jouaient avec, bon, le nouveau terme, c'est Divus Iulius. Vous notez qu'ils s'appellent Divus comme les petits dieux esclaves, ou comme les nymphes d'ailleurs, les Divi Virgines, Divae Virgines, ce sont les nymphes, l'eau coulante. Pas Deus, Divus. Et quel est le rapport avec les Genius? On sait qu'un dieu peut avoir un génie. Est-ce qu'on va rendre un culte à ce Divus Iulius qui est un mortel? C'est plutôt un héros qu'un dieu, puisqu'il a été brûlé, il est passé par la mort. Et alors, ils ont bricolé, ils ont mis Genius du divin Jules, ce qui est une erreur. Et puis, près de Rome, au lac de Bracciano, à Forum Claudii, il y a un long texte qui est de 14, où ils ont, la ville, la cité, a constitué un calendrier de fêtes, etc. Et vous voyez qu'il décide qu'aux anniversaires d'Auguste et de Tibère, les décurions vont d'abord, avant d'aller banqueter, faire un sacrifice et inviter que leur génie d'Auguste et de Tibère soit invité par un sacrifice d'encens à Divin à venir manger sur l'autel du noumen d'Auguste. Vous voyez à quel point c'est entortillé. Auguste est juste mort, il a été divinisé et ils sont encore avec le génie, là, tout simplement. Donc tout cela vous montre que c'était des notions qui n'étaient pas simples, mais que, comme le concept divus, qui posait des problèmes aux Romains. Mais, comme je vous l'ai dit, ce n'était pas seulement, je voulais vous montrer ces deux textes, ce n'était pas seulement des problèmes qui se posaient aux simples particuliers, mais même au niveau de l'État ou des cités. Et dans le culte funéraire, vous voyez en permanence des inscriptions de Rome sur cette image. Ils mettent « consacré au dieu Man », mais vous voyez qu'ensuite, il y a un jeune homme qui est son génie infernal, donc là le génie devient infernal, le génie en bas, alors que c'est un dieu, il ne doit pas aller aux enfers. Hein. Et Pietas, lui, il était entièrement amour filial, si vous voulez. Même chose pour sa sœur, ça a été trouvé dans le même tombeau. Elle, Pietas et Memoria, c'est les divinités qui le répondent. Dieu dis parentium, c'est les dieux man, qu'on dit aussi les dieux des ancêtres, et le genius de Vitulus, etc. C'est toujours les mêmes, vous voyez, Iunoni pontia ignesiae, etc. Dis manibus au milieu, parce qu'il spécule. Et là, on a même un texte un peu plus développé, puisqu'un Iulius Orpheus a fait pour lui un monument et à Orphito, sa fille, qui est morte à 14 ans, jeune fille, n'est-ce pas, Veneri Cupidini, il a Inferorum. Vénus, ça c'est ce qui est devenu la Juno, le génie de la jeune fille. Lui, Cupido, il pense à lui-même, il sera son Cupidon dans l'au-delà, ou Dieu sait quoi. Donc tous ces documents témoignent d'une part de variations sur la divinité qui représentait le double de la personnalité des individus et les difficultés de compréhension de la nature du génie ou de la Juno ou des divinités assimilées. Manifestement, les auteurs de ces textes et jusque dans la bonne société et dans les cités, au niveau de la direction des États, s'interrogeaient sur le devenir du génie ou de la Juno. Jouent-ils désormais leur rôle dans les enfers? Sont-ils joints au dieu Man comme ils sont joints au dieu? Chacun se faisait ses idées et nous pouvons déambuler dans les cimetières comme Pline le Jeune avec ses amis au sanctuaire du Clitumne, en Italie du Nord, pour lire les dédicaces et nous amuser des idées exposées. Pour vous montrer que celle-ci n'était jamais très claire, je prends une dernière inscription qui vient d'une région un peu plus civilisée, la Germanie inférieure, Millingen, où là, ils n'ont pas fait de détails. Mukronia Markia a carrément appelé sa maîtresse Dea Domina Rufia Materna. C'est une déesse qui s'appelle maîtresse Rufia Materna. Mais ce qui est très amusant, n'est-ce pas, les dieux mâles ne sont apparemment pas mentionnés, en tout cas sur la pierre, il n'y a rien, mais elle fait un petit calendrier funéraire. Bien entendu, il y a son anniversaire, c'est normal, sur toutes les tombes. Mais ce qui est très intéressant, c'est Parentalibus, donc en octobre, et surtout au Parental, il y a de la fin février, eh bien, ils font aussi des sacrifices. Donc, c'est une contradiction dans les termes. Si elle est déesse, elle ne peut avoir aucun rapport avec les Parentalia, la fête des morts, jour où les temples étaient fermés et aucun magistrat n'était pratiquement en exercice, ni aucun prêtre, parce que c'était les morts étaient à l'ordre du jour. Et vous voyez qu'elle appelle Dea Domina, et en même temps, elle fait honorer sa maîtresse, pourtant comme un mort. En tout cas, tous ces exemples nous permettent de comprendre la constatation moqueuse de Tertullien, qui identifie le culte des dieux en régime polythéiste à celui des morts. Et il témoigne donc lui aussi, non seulement pour les pratiques que je viens de décrire, mais aussi pour les spéculations sur les pratiques rituelles, puisqu'il parle des formes que vous donnez à ces statues, selon l'art, le métier ou l'âge, on les transforme, etc. Et il dit exactement, il commente ce que je viens d'essayer de vous exposer depuis un certain temps. Il y a un deuxième aspect qui revient souvent, des spéculations, disons, mais plutôt modernes, peut-être antiques, à propos du génie, c'est que certaines inscriptions ont laissé, alors là nous sommes dans le politique en général, ont laissé penser aux historiens qu'il y avait une autre divinité derrière le génie d'une cité. Chaque cité de l'Empire avait son genius. Alors certains, notamment c'est Claude Lepelet qui a développé ces idées, et Bertrand Goffaut a un peu essayé de mettre de l'ordre dans cela, le génie de la cité exprimé par une allégorie sacrée l'esprit de corps de la communauté. Ce qui est exact, sauf que ce n'était pas une allégorie, mais une véritable divinité qui exprimait la puissance d'action, la qualité d'action de la cité, sa personnalité active, si vous voulez, en quelque sorte, telle qu'elle était née le premier jour et qu'elle continue d'agir pour le reste. Double divin de la communauté, aussi dit Goffaut. Mais si Le Pelet disait cela, c'est qu'il il avait une idée du génie, était que c'était une sorte de paravent, que ce n'était pas une vraie divinité, que c'était une façon d'évoquer autre chose. Il se peut qu'il soit trompé dans cette affaire par le genius Urbis Romae, dont une inscription républicaine dit « Sive mas, sevi femina ». On ne dit même pas s'il est mâle ou femelle. Encore un exemple de bivalence de genius. Et il y avait une tradition parallèle qui avait la divinité inconnue de Rome, que les Romains cachaient soigneusement pour qu'on ne puisse pas l'appeler chez soi en cas de guerre. Il est possible que ça les ait troublés, mais il y a très peu de documents qui sont justes. Je ne vais pas exister. C'est de nouveau l'idée de génie, du génie là, de Vissova. Quand je vois une inscription comme celle de Sitifis, Marti, Deo Augusto, Genio Coloniae, moi je ne l'écris pas comme ça. Ou quand je vois Numini Dei Domini Augusti Sacrum, Genio Conservatori Horeorum Galbianorum, on ne peut pas dire que Genius explique ce qu'est le Numen de la famille impériale, etc. Parce que la famille impériale n'a rien à faire avec un hangar à blé situé sur le bord du Tibre. Vous avez vu aussi ce texte de Servius qui se réfère à ça. Non. Quand je vois donc une inscription de ce type au génie du secrétariat de l'officier appelé Princeps dans la Légion de Lambèse, Minerva Augustae, ou à Sitifis, comme je l'ai lu. Moi, j'écris comme ça. Je mets une virgule. Parce que là, si vous ne mettez pas la virgule, vous pouvez inventer toute une théologie romaine. C'est des listes divines ultra classiques et je ne peux pas considérer ça. Il y a, allons à Avenches, où on sait que la divinité principale, c'est Mars. Eh bien, quand on dit aux puissances divines des Augustes, des empereurs, et au génie de la colonie des Helvètes, dire qu'Apollo est le genius de la colonie des Helvètes est une ânerie, parce que c'est Mars, c'est pas Apollon. Là, parce que c'est la scola des médecins, donc Apollon est là en tant que patron des médecins. Et ainsi de suite. Je ne vais pas revenir sur tous ces cas. Ils prouvent tous la même chose, sauf quelques documents, comme par exemple chez Arnob, il dit dans un texte polémique contre les païens, Lateranus genius focorum. Là, je comprends. Il dit c'est le génie des fours, etc. Il s'appelle Lateranus. Ce genre de documents sont extrêmement rares et on trouve des documents comme cela, une table de jeu de Marctar où on a Apollo, genius, liber, patrio, quereri, castae. Alors, Apollo et Genius, on peut imaginer qu'il y a un rapport, puisque dans les autres cases du jeu, il y a des épithètes qui se rapportent au premier. J'admets que certains aient pu avoir ces spéculations, comme dans l'inscription de Elgem, qui est la dernière, où au dieu Mercure, Sanctus, très pur, génie de la colonie de Sous. Non, c'est pas Sous, c'est Elgem, Tusdritanae, voilà, Coloniae. Donc là, j'admets que manifestement, le genius est censé désigner. C'est possible, mais je crois que ce n'est pas ce qu'on peut retenir comme une règle générale. Et j'ai trouvé ça maintenant partout, le génie, quand il est public, c'est de nouveau une façon de le déreligiosiser. De le sortir du polythéisme et de la religion et de la pratique, c'est de dire, oui, c'est une façon, une métaphore, ils appellent par là simplement, de façon honorifique, ce qu'est leur ville. Non, c'est la divinité qui protège leur ville, tout est là, ça c'est juste, et qui est le double divin de leur cité tant qu'elle existe. Donc si nous récapitulons tout cela, d'ailleurs, je vous mets ce texte d'Augustin que vous pouvez lire et vous voyez ce qu'il dit, s'il dit cela. Donc, si je récapitule tout cela, on voit d'abord qu'il y a un problème, il y a eu en Europe un problème avec l'étymologie de genius. L'hypothèse choisie au 19e siècle par Vissova et beaucoup d'autres chercheurs, rencontrent des gros problèmes. L'hypothèse de Dumézil, que j'ai signalé, résout les problèmes de la conception de la figure du genius, indépendamment de la discussion proprement étymologique, qui n'est peut-être pas entièrement résolue. Mais de genendo, du fait de naître, c'est un grammairien romain qui dit ça, mais ça ne veut pas dire à partir de « engendrer », c'est de naître. C'est au moment où il naît. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces spéculations modernes se retrouvent également dans l'Antiquité, puisqu'il y a eu à Rome, à la fin de la République et sous l'Empire, des spéculations sur la nature du genius, d'un point de vue philosophique et universel, peut-être, mais aussi sur le plan de la pratique, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Est-ce que quand il meurt, il change de nature ? Est-ce qu'il l'accompagne et protège dans la tombe ou non ? Et nous sommes dans une religion sans dogme, sans vérité théologique. C'est dans les cadres domestiques, ce sont les pères de famille qui décident ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et dans l'État, c'est le Sénat et le peuple romain qui le décident, éventuellement les magistrats. Donc, on voit là des exercices, si vous voulez, de théologie momentanée, privée ou publique, qui n'est pas celle de la grande doctrine que nous, nous essayons de reconstituer d'après les documents majeurs et d'après les auteurs latins, les érudits latins. Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question d'où ces auteurs, les auteurs de ces spéculations, pouvaient tirer leur source d'information. Est-ce que c'était parce qu'ils étaient bilingues, ils étaient biculturels, ils voyaient les dieux mânes, les dieux bons, d'après les Romains? Est-ce qu'ils connaissaient la pratique de l'agathos daimon tinos? Je n'en sais rien. Est-ce que c'était vraiment diffusé à ce point que déjà sous la République, parce que ça existe depuis au moins Plaute, n'est-ce pas, on a ce genre de divinité? Je ne sais pas. En tout cas, vous avez vu ces bricolages que font les gens pour arriver à quelque chose qui les satisfait. Ils font même de grands mausolées avec tout cela. Encore faut-il comprendre à Rome et dans l'Ouest romain ce qu'exprime le genius d'une personne, d'une divinité, d'un lieu ou d'une chose. Ce n'est pas à proprement dire une identité, mais une capacité d'action, un double de la personnalité de ces personnes. Et ce double est divin, comme le double de l'arbre, c'est la nymphe qui l'habite, le temps où il est vivant, ou la source aussi, c'est la nymphe. Quand la source se tarit, la nymphe meurt. Et on ne peut pas dire que c'est l'identité de l'arbre, mais c'est ce qui fait fonctionner l'arbre, ce qui le protège, ce qui est sa capacité de vivre, si vous voulez. En tout cas, il s'agit d'un bel exemple, je trouve, pour vous montrer que dans le privé comme dans le public, les anciens spéculaient. Et le chapitre est immense parce qu'il y a beaucoup d'inscriptions funéraires et très rapidement, on trouve des exemples où ils ont joué avec tout cela. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est même au niveau public qu'on trouve ce genre d'hésitation. Et vous voyez les petits jeux, même dans l'entourage d'Agrippine. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'elle se met devant Néron. Vous l'avez peut-être vu dans une inscription, avant le génie de Néron. Pas elle, mais le génie de Néron vient après. Concordia honoris eius, genio ipsius. En 63, genio ipsius, iuno popaiae. L'ordre est rétabli et le génie est de nouveau à la place qu'il lui faut. Je termine, c'est tellement important ces petits détails que quand vous avez un sanctuaire, je l'ai déjà dit brièvement en passant, des empereurs divinisés à Rome, dans le culte d'État, les empereurs viennent après tous les dieux, même les plus petits, ils reçoivent une victime, là où les autres en reçoivent deux, et ils mangent donc après, et le genius de l'empereur vivant, qui est le chef de famille, en gros, de la famille impériale, vient avant le divin Auguste, le divin Claude et les 20 empereurs divinisés. Donc, ce n'est pas des petites divinités de rien du tout, c'est le maître du monde, son génie, il passe avant les empereurs divinisés. Ça fait réfléchir aussi sur le culte impérial, qui a d'autres surprises, comme la consecratio, comme ils disent, de l'empereur, qui est une consecratio des héros, et pas d'empereur divinisé, d'où, je pense, une certaine perplexité des Grecs quand on voulait après leur faire vénérer Livy 20 ans après comme déesse, comme divin, etc. Voilà, je termine là.